Bonjour, aujourd'hui l'émission est organisée par Noéline Petit, Émilie Morand et Marcel Auchard, élèves du Collège Jeanne d'Arc de La Rochelle. Nous vous proposons une émission sur un sujet d'actualité, assez difficile à traiter et assez contentieux, celui de l'Organisation des Nations Unies face à la guerre. Je passe la parole à Émilie qui va vous définir ce qu'est l'ONU.
L'ONU est l'Organisation internationale des Nations Unies, regroupant environ 193 États. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la Charte de San Francisco, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU siège à New York. Elle est là pour favoriser la communication, afin de trouver des solutions aux problèmes entre les nations et promouvoir la paix et la sécurité internationale. Elle intervient dans le monde de la guerre grâce à sa force armée, nommée les Casques Bleus, qui n'ont point le droit de se battre, mais qui servent à défendre les civils en opposition aux soldats qui combattent.
Je crois avoir compris ce qu'était l'ONU, mais j'ai une question. D'où vient l'idée de la création de l'ONU ?
L'ONU vient de l'idée de consolider la paix et la sécurité dans le monde, qui sont devenues des priorités dès 1899. Avec la Conférence internationale de la paix, cette conférence visait à mettre en place des outils permettant de résoudre pacifiquement les crises, pour éviter les guerres et établir des règles. En 1919, la Société des Nations a été créée sous la direction de Thomas Woodrow Wilson, qui était alors président des États-Unis de 1913 à 1921. Cependant, le projet de la SDN a échoué et n'a pas pu éviter la Seconde Guerre mondiale.
Merci. Finalement, si j'ai bien compris, la SDN est l'ancêtre de l'ONU. Maintenant, peux-tu nous parler de l'ONU pendant la guerre froide ?
La guerre froide désigne la période de forte tension géopolitique, sans affrontement direct, entre l'URSS, qui signifie l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, avec leur allié dans le bloc oriental et les États-Unis, avec leur allié dans le bloc occidental. La guerre froide commence en mars 1947 avec l'annonce du président des États-Unis, Harry Truman, qui dit que les États-Unis aideront tout pays menacé par le communisme, en particulier la Turquie. En juin 1947, les États-Unis lancent le plan Marshall afin d'aider la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et éviter la montée du communisme. L'URSS s'y oppose et interdit aux pays d'Europe de l'Est d'y participer. L'Europe se divise en deux blocs. Chacun des blocs s'organise militairement. L'OTAN, qui veut dire Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance qui est fondée par 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord le 4 avril 1949. Cette alliance est dirigée par les États-Unis et 20 autres pays ont rejoint ses rangs depuis. Actuellement, 32 pays en sont membres. L'OTAN s'emploie à promouvoir les valeurs démocratiques et permet à ses membres de se consulter et de coopérer. En opposition, l'URSS, dont la capitale est Moscou, met en place le pacte de Varsovie en 1955. Toutefois, après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, les régimes communistes s'effondrent dans toute l'Europe de l'Est. En 1991, l'URSS se disloque en 15 États. La guerre froide prend donc fin. Dans ce contexte, l'ONU est prise en étau entre les deux blocs idéologique et militaire, ce qui a limité sa capacité à agir en tant qu'arbitre neutre et efficace. Par exemple, l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 afin de promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Pendant la guerre froide, les questions des droits de l'homme étaient souvent instrumentalisées par les deux blocs pour critiquer l'autre. Dans ce contexte de guerre froide, l'ONU est aussi fragilisée dans son fonctionnement. L'Assemblée générale regroupe tous les États membres de l'ONU où des débats idéologiques entre les deux blocs ont lieu. Mais certains États ont davantage de pouvoir. Le Conseil de sécurité est l'organe de décision, mais les cinq membres permanents, qui sont l'URSS, aujourd'hui la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine, ont le droit de veto, c'est-à-dire un pouvoir de blocage empêchant l'adoption d'une résolution par l'ONU. Chaque superpuissance utilisait son veto pour bloquer les résolution défavorable à ses intérêts ou à ceux de ses alliés, rendant difficile toute action décisive pour résoudre les conflits. La paralysie de l'ONU pouvait aussi se faire par la politique de la chaise vide, qui consiste à une tactique diplomatique où un État ou un groupe d'États refuse de siéger dans une instance internationale ou de participer à des négociations afin de protester contre une situation ou une décision. L'objectif est de bloquer les décisions de l'instance ou d'attirer l'attention sur ses revendications en rendant impossible l'adoption des résolutions par consensus. L'exemple le plus emblématique de la politique de la chaise vide à l'ONU pendant la guerre froide est celui de l'Union soviétique au sujet de la représentation de la Chine au Conseil de sécurité, mais cette tactique n'est pas forcément efficace.
Émilie, j'ai compris que, durant la guerre froide, l'ONU était paralysée par les États permanents dans un contexte de bipolarisation du monde. Toutefois, tu as donné l'exemple de la politique de la chaise vide de l'URSS au sujet de la Chine. Peux-tu nous préciser pourquoi l'Union soviétique appuie la Chine comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU ?
Après la victoire des communistes en Chine en 1949 à la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. Le gouvernement nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek se réfugie à Taïwan. Les États-Unis et leurs alliés reconnaissent le gouvernement de Taïwan comme le représentant légitime de la Chine et lui ont permis de conserver le siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, l'URSS considère que seul le gouvernement de la République populaire de Chine a le droit de représenter la Chine à l'ONU. En signe de protestation, le délégué soviétique Yakov Malik a boycotté les réunions du Conseil de sécurité à partir de janvier 1950. Toutefois, le boycott soviétique a eu une conséquence majeure et imprévue. Lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud en juin 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU a pu adopter des résolutions autorisant l'intervention militaire en Corée sous l'égide de l'ONU, car l'URSS, absente, n'a pas pu exercer son droit de veto. Si l'URSS avait été présente, il est fort probable qu'elle aurait opposé son veto à toute action contre la Corée du Nord, qui est un de ses alliés. L'URSS a finalement mis fin à son boycott en août 1960. Réalisant que son absence était contre-productive, la question de la représentation de la Chine à l'ONU n'est résolue qu'en 1971, lorsque la résolution 2758 de l'Assemblée générale reconnaît la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la Chine à l'ONU, ce qui a pour conséquence l'expulsion des représentants de Taïwan à l'ONU.
Émilie, tu viens de nous montrer que l'ONU était fragilisée par la bipolarisation du monde durant la guerre froide, mais qu'elle savait résister face à la politique de la chaise vide de l'Union soviétique dans les années 1950. Je sais qu'en parallèle de la guerre froide, il y a eu un processus de décolonisation de nombreux États dans le monde. L'ONU a-t-elle eu une importance dans ce processus ?
L'ONU a joué un rôle important dans le processus de décolonisation, car dès sa création en 1945, elle affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans sa charte à l'article 1, paragraphe 2, mais aussi à l'article 55. Ce principe sert de base pour les peuples colonisés qui veulent devenir indépendants. Étonnamment, dans ce contexte de guerre froide, les États-Unis et l'URSS sont d'accord avec ce principe. En effet, les États-Unis étaient une ancienne colonie qui s'est révoltée contre le Royaume-Uni pour devenir indépendant le 4 juillet 1776. L'URSS est le défenseur de la liberté et de l'indépendance, car elle se dit anti-impérialiste. De plus, elle a contribué à faire adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 par de nombreux pays. Ce texte permet la protection des droits fondamentaux. Mais pendant la guerre froide, il est souvent instrumentalisé par le bloc de l'Est, comme par le bloc de l'Ouest, pour critiquer l'adversaire. Le 14 décembre 1960, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 1514 qui proclame la nécessité de mettre fin rapidement et sans condition au colonialisme sous toutes ses formes. Elle affirme que l'assujettissement des peuples à une domination étrangère est une négation des droits fondamentaux de l'homme et est contraire à la charte des Nations Unies. L'ONU devient alors un lieu de parole pour les pays demandant leur indépendance, car elle permet de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Par exemple, des pays comme l'Inde ou l'Algérie ont utilisé l'ONU pour défendre leur cause avant même leur indépendance afin de mettre la pression sur les puissances coloniales et en accueillant les nouveaux États de la communauté internationale.
Merci à Émilie pour nous avoir présenté l'appui de l'ONU aux États voulant devenir indépendants dans le contexte de la décolonisation. Nous allons maintenant faire une pause musicale avec « Rentrez chez vous » du groupe Big Flo et Oli, sorti en 2019. Cette chanson place la France dans une situation de guerre et d'émigration qui peuvent en découler.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Bien sûr, le bruit des wagons bondés me rend insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me tend des haut-le-cœurs. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barque. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt six jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Port de Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste et nous voilà partis. Acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos zap et la laine sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli.
Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».
Nous venons d'écouter « Rentrez chez vous » de Big Flo et Oli. Vous êtes sur une émission proposée par Noéline, Émilie et Marcelo, élèves au Collège Jeanne d'Arc de La Rochelle, qui a pour sujet l'ONU face à la guerre. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous avons vu précédemment l'ONU dans la guerre froide et dans le contexte de la décolonisation. Je laisse la parole à Noéline, qui va vous en dire plus sur la relation entre l'ONU et l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, qui s'est déroulée entre 1954 aux accords déviants du 18 mars 1962.
La guerre d'indépendance algérienne est un conflit opposant les forces coloniales françaises et le Front de Libération Nationale, appelé FLN, qui luttait pour l'indépendance de l'Algérie à cette époque. L'Algérie est considérée par la France non pas comme une colonie, mais comme un territoire français. La crise algérienne est donc une affaire interne à la France. Le FLN est soutenu par de nombreux pays du tiers-monde, comme l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui porte la question algérienne à l'ONU en espérant que l'organisation puisse jouer un rôle de médiateur. La France, membre permanent du Conseil de sécurité et donc ayant un droit de veto, s'y oppose systématiquement. Elle bloque toute résolution officielle au Conseil pour empêcher l'ONU d'intervenir dans le conflit. Malgré le blocage au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU, où aucun membre ne dispose d'un droit de veto, a adopté en 1960 la résolution 1573 qui reconnaît le droit à l'indépendance du peuple algérien et appelait à des négociations pour mettre fin au conflit. Aujourd'hui encore, la France est opposée à l'ONU au sujet de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui font partie de la liste des 17 territoires non autonomes qui doivent accéder à l'indépendance selon l'ONU.
Merci Noéline de nous avoir expliqué le rôle de l'ONU dans la guerre d'Algérie. Émilie, tout à l'heure, tu nous as donné l'exemple de l'Inde qui a demandé l'aide de l'ONU au début de son indépendance en 1947, à la suite d'une négociation avec la couronne britannique. Peux-tu nous en dire plus ?
L'ONU est intervenue au Cachemire en 1948 à la demande de l'Inde à cause d'un conflit avec le Pakistan qui est aussi devenu indépendant en 1947. L'Inde est majoritairement hindoue alors que le Pakistan est majoritairement musulman. Le Cachemire est un territoire situé entre les deux pays avec une population en majorité musulmane, mais dirigé à l'époque par un maharaja hindou qui hésite à rejoindre l'un des deux pays. En octobre 1947, des soldats venus du Pakistan envahissent le Cachemire. Le maharaja demande alors l'aide militaire de l'Inde et accepte de rattacher son état à ce pays, ce qui déclenche une guerre. L'Inde décide de saisir l'ONU en janvier 1948 pour dénoncer l'agression. L'ONU intervient en appelant à un cesse-le-feu et à la tenue d'un référendum pour que la population du Cachemire choisisse à quel pays elle veut appartenir. En 1949, une ligne de contrôle surveillée par les casques bleus sépare depuis les zones administrées par l'Inde et par le Pakistan. Toutefois, le référendum n'a jamais eu lieu, car l'Inde et le Pakistan ne se sont jamais mis d'accord sur ces conditions. Depuis, la région reste un point de tension, et l'ONU maintient encore aujourd'hui une mission d'observation militaire dans la zone.
Merci Émilie de nous avoir présenté l'intervention de l'ONU au Cachemire. Noéline, Émilie vient de nous parler brièvement des casques bleus. Peux-tu nous définir que sont ces casques bleus ?
L'ONU peut intervenir de différentes manières afin de faire respecter la paix et le droit international en cas de conflit. En amont, elle peut envoyer des casques bleus. Ce sont des soldats de différents pays qui agissent sous l'égide de l'ONU afin de créer une force d'interposition défensive sur un point chaud. Il s'agit d'assurer la protection des populations civiles, assurer le respect d'un cessez-le-feu ou encore sécuriser les sites stratégiques comme des hôpitaux ou des centrales nucléaires. Les casques bleus n'interviennent que dans un cadre défensif. En mai 2025, selon l'ONU, ce sont près de 68 000 casques bleus qui sont envoyés sur 11 missions, comme celle au Liban où se trouvent des casques bleus sur la frontière avec Israël afin d'éviter les affrontements entre les forces israéliennes et le Hezbollah. En aval, l'ONU peut émettre des résolutions au sein du Conseil de sécurité afin de condamner des États ou des entités qui ne respectent pas le droit international et peut ainsi s'appuyer sur la Cour pénale internationale pour juger les crimes de guerre ou un génocide qui se définit comme une mise à mort programmée, méthodique et organisée d'un peuple en raison de son origine, de sa religion ou de son appartenance ethnique ou culturelle.
Merci Noéline pour nous avoir présenté les casques bleus. Émilie, peux-tu nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de la justice internationale ?
L'ONU s'appuie sur des traités de guerre pour établir les droits de la guerre. Les traités de guerre servent à encadrer les soldats dans leur mission. Cette conscience d'une guerre éthique commence à apparaître à partir du XVIe siècle grâce à la pratique des capitulations et des armistices. Ces évolutions destinées à humaniser le traitement des victimes ont donné naissance à des règles régulant les combats. Ce traité international est retravaillé en 1949 par 71 États, dont 12 qui s'ajoutent au fur et à mesure. Ces pays établissent 4 conventions de Genève. Les droits de la guerre y sont réglementés afin de protéger les civils, les blessés, les prisonniers de guerre ou encore des membres de l'aide humanitaire. Les conventions de Genève précisent que transcrire certaines des dispositions correspond à un crime de guerre. L'ONU s'appuie sur ces conventions dans ses nombreuses résolutions. Par exemple, en 2021, le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison pour crime de guerre par la Cour internationale de justice. Cet organe permanent est composé de 15 juges élus pour 9 ans, par un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. Des tribunaux de l'ONU ont condamné des responsables des génocides en ex-Yougoslavie dans les années 1990, où 60 000 musulmans sont massacrés par des Serbes dans la ville de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, ou des Tutsis par les Hutus en Rwanda en 1994. En Rwanda, entre 800 000 et 1 million de personnes sont exterminées en 3 mois, soit 75% de la population Tutsi au Rwanda. L'ONU a alors condamné 92 personnes pour ce génocide. Depuis novembre 2024, dans le cadre de la guerre israélo-palestinienne, l'ONU a jugé les méthodes de guerre employées contre les Palestiniens à Gaza par l'Israël comme compatibles avec le crime de génocide, car 3 des 5 actes définis par la Convention de 1948 sont employés par Israël, soit les meurtres massifs, les privations, ainsi que le blocage à l'aide humanitaire et la destruction de 80% du bâti dans des hôpitaux.
Merci Émilie de nous avoir montré quelques exemples de condamnations faites par l'ONU au sujet de crimes de guerre ou de génocide. Noéline, peux-tu nous expliquer quels sont les nouveaux dangers des guerres aujourd'hui ?
En 2024, il y avait environ 60 conflits dans le monde, soit 3 fois plus qu'en 1946. Les guerres coloniales et les guerres entre États ont diminué depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les guerres civiles n'ont cessé d'augmenter. Avec les nouvelles armes, les guerres sont devenues plus dangereuses pour les civils, et l'ONU légifère donc pour limiter l'utilisation de certaines armes. Ainsi, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques de 1972 interdit l'utilisation de bombes bactériologiques. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1993 interdit l'usage des substances toxiques dans les guerres comme le gaz moutarde ou le chlore. Et la Convention d'Ottawa de 1997 interdit les mines antipersonnelles, qui sont des explosifs enterrés qui restent actifs longtemps après les conflits. Pour ce qui est de l'arme nucléaire, le traité de non-prolifération du nucléaire est adopté par de nombreux États en 1968. À cette époque, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine possèdent l'arme nucléaire qui sert de dissuasion. Toutefois, ce traité est limité puisque l'Inde et le Pakistan ont réussi à obtenir l'arme nucléaire en 1998 et Israël la possède aussi. D'autres pays ont essayé de faire de même, comme l'Irak de Saddam Hussein ou la guerre en Irak menée par les États-Unis en 2003. La France n'intervient pas dans cette guerre car pour elle, toutes les voies diplomatiques n'ont pas été utilisées, comme le dit Dominique de Villepin. Alors, ambassadeur de la France au Conseil de sécurité de l'ONU le 14 février 2003, un usage de la force serait si lourd de conséquences pour les hommes, la région et pour la stabilité internationale qu'il ne saurait être envisagé qu'en dernière extrémité. Finalement, l'Irak n'avait développé de nouveau l'arme nucléaire et d'autres armes comme des armes chimiques et biologiques depuis la guerre du Golfe en 1991. C'est donc une fake news. Des États-Unis ont pour but de renverser le régime de Saddam Hussein. Depuis 2017, l'ONU a interdit l'utilisation de l'arme nucléaire. Cependant, le président des États-Unis, Donald Trump, s'est retiré de ces différents accords dès 2020, ce qui a permis à l'Iran de relancer ses recherches pour créer l'arme nucléaire. Toutefois, ce pays en est encore bien loin et il est donc bon de se questionner sur la pertinence de l'attaque d'Israël sur l'Iran. Le 13 juin 2025, à ce propos, le 15 juin 2025, le président français Emmanuel Macron appuie Israël et affirme que la France pourra participer aux opérations de défense d'Israël en cas de représailles menées par l'Iran, ce qui est contraire aux négociations diplomatiques qu'a développé la France après la Seconde Guerre mondiale, comme avec Dominique de Villepin et aux positions de certains partis politiques français comme la France insoumise qui condamne cette attaque. Enfin, d'autres débats s'ouvrent à l'ONU au sujet d'autres armes comme celle des robots tueurs.
Pour finir notre émission sur l'ONU dans la guerre, nous allons terminer avec une note positive en écoutant We Are the World de USA for Africa, sorti en 1985 pour venir en aide à l'Éthiopie qui souffrait d'une grande famine à l'époque. Cette chanson a été écrite par Michael Jackson et Lionel Richie et montre que les pays sont capables d'être solidaires quand ils sont dans le besoin. C'est aussi une chanson qui véhicule l'espoir d'un monde meilleur. Nous remercions Madame Boujassou, professeure d'histoire géographie EMC, pour nous avoir accompagnés tout au long de la création de notre émission. Merci à la radio Liberté FM de nous avoir permis de passer à la l'antenne. Vous étiez avec les chroniqueuses Noéline Petit et Émilie Morand, ainsi que moi-même, le producteur et présentateur de l'émission, Marcel Auchard. Nous espérons que ça vous a plu et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. So we all must lend a helping hand. We are